Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée. Et lorsque je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui, je me suis interrogé sur le fil rouge et je me suis dit en regardant ma propre actualité ainsi que le temps liturgique, l'avant donc, qu'il fallait prendre un petit peu d'avance et parler de l'événement, de l'avènement même qui allait nous tenir en haleine pendant les prochaines semaines, la naissance de Jésus bien entendu. Et je me suis dit, puisque le 14 décembre à la Basilique Saint-Cernin, 20h30, la Schola Cantorum va chanter la messe de minuit, que je vais le diriger avec l'orchestre baroque de la Schola, eh bien je me suis dit que j'allais partager avec vous cette œuvre parce que non seulement elle est très belle, mais elle est également très intéressante et elle nous met tout de suite dans la joie de Noël. Alors aujourd'hui, je vais vous passer plusieurs extraits, trois extraits qui sont un peu longs, donc je vais être court dans ma façon de parler de l'œuvre, mais je me rattraperai la semaine prochaine, n'ayez crainte. On commence tout simplement par parler du compositeur Marc-Antoine Charpentier, un des plus grands compositeurs de la musique baroque. Il est né en 1643 et il est mort en 1704. Il est très connu de Louis XIV, qui le connaît bien, il est contemporain de Lully, très influencé par la musique italienne, et c'est véritablement un prodige. Vous le connaissez peut-être dans le grand public par son entrée du Te Deum, qui est utilisé notamment dans le générique de l'Eurovision. Mais c'est bien plus que ça, naturellement, Charpentier, c'est une grande sensibilité, et ici, il fait quelque chose d'extraordinaire avec cette messe, c'est-à-dire qu'il va parler à tout le monde en faisant de la musique savante. Par quel artifice? Tout simplement en prenant des thèmes connus, des thèmes qui sont sifflotés dans tous les coins du royaume de France, et il fait de ces Noëls populaires eh bien, une grande messe de minuit. Vous allez voir, même l'instrumentation est assez intimiste, finalement seulement des violons, des flûtes et un petit continuo, et les chœurs avec les solistes. C'est assez faible presque, mais en même temps ça dit tout de cette fameuse nuit de Noël qui est certes extrêmement joyeuse, mais contenue. Alors ces 15 jours, nous allons suivre l'interprétation de l'ensemble correspondant sous la direction de Sébastien Dossé. Vous allez donc entendre dans un premier temps le Kyrie de la messe de minuit, vous allez voir, là aussi danser, subtilement joyeux et en même temps plein d'entrain sur le thème de Joseph et bien marié. C'est un tempo extrêmement rapide, extrêmement vif qui a été choisi ici par Sébastien Dossé, qui rappelle l'aspect festif, l'aspect dansé que l'on va retrouver naturellement dans toute l'œuvre. Et la suite de ce Kyrie, c'est bien entendu son Gloria qui commence avec une intonation grégorienne, comme ça sera le cas d'ailleurs dans toutes les grandes messes qui vont poursuivre. Et ensuite, quand on va évoquer Et in terra pax, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, vous avez le chœur qui va reprendre ça d'une façon extrêmement douce, extrêmement pleine, extrêmement entière, comme si la paix devait vraiment envahir le monde, mais une paix d'une grande douceur. En revanche, quand on attaque la suite, Laudamus te, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, là, vous allez voir, les chœurs sont beaucoup plus enjoués, beaucoup plus festifs, et ça montre que partout, la gloire de Dieu, la gloire du Sauveur nouveau-né éclate sur toute la terre, et il y a ce côté très annonciateur. Alors, je vous le disais, c'est une messe avec une instrumentation très réduite, mais on pourrait totalement imaginer qu'il y aurait eu des trompettes et des timbales pour annoncer ça. Mais non, ici, c'est quelque chose de beaucoup plus intime, toujours sur le côté très dansé, très festif. On perçoit le côté joie intime que veut faire passer le compositeur, qui est ici merveilleusement extraordinaire, et on continue avec cette espèce de passation entre les solistes, l'orchestre et le chœur, qui vont se passer le témoin. Presque comme si on devait annoncer nous-mêmes la naissance du Sauveur. On l'avait entendu de quelque part, il faut qu'on passe le témoin à quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement réussi dans cette messe, et notamment dans ce Gloria, qui est une des pièces de bravoure. Vous allez l'entendre avec une certaine forme de virtuosité, et en même temps d'assise, exactement comme était capable de le faire cette musique baroque, si particulière, si festive, si incroyablement dansée. Et donc vous allez l'entendre immédiatement dans ce Gloria. On reste avec l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé, vous allez voir ce Gloria tout à fait festif, mais avant, un petit peu de calme sur la terre, puisqu'il ne faut peut-être pas réveiller l'enfant qui dort.
Gloria in excelsis Deo.
Christus, 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 Christ
C'est avec ces incroyables Amen qui s'enchaînent, comme on annonce cette nouvelle comme si les anges faisaient part de la naissance du Sauveur. Il faut bien se souvenir d'ailleurs que Gloria in excelsis Deo, c'est ce que chantent d'ailleurs les anges quand le Messie est né. Donc c'est pour ça que ce texte est parfaitement mis en valeur ici par Marc-Antoine Charpentier. Et la messe se continue par l'autre énorme morceau de bravoure, le plus gros même de toute la messe, celui du credo. Pourquoi c'est le plus gros morceau de bravoure? Tout simplement parce que c'est là où le texte est le plus long, et par conséquent, le compositeur va mettre en place plusieurs artifices pour montrer cet aspect totalement festif. Vous l'avez entendu notamment dans le Gloria que l'on vient d'entendre, Laudamus te, benedicimus te, benedicimus te. Il y a quelque chose d'extrêmement rythmé, là c'était quelque chose de totalement fondamental, et vous allez retrouver ça dans diverses formes, dans diverses mesures, tout au long de ce credo très protéiforme, avec plusieurs formes. Alors, il va commencer exactement d'ailleurs comme le Gloria, c'est-à-dire que vous allez avoir une intonation grégorienne, et ensuite, sur le tout début du credo, sur les premiers mots, le Père Tout-Puissant, vous allez avoir quelque chose de très lent, comme si on allait chercher à dilater le temps. En vérité, cet artifice va être réutilisé plus tard. Vous allez voir, je vais un petit peu vous expliquer cela. Ensuite, il y a des passages tout à fait rythmés, et là aussi, on a cette espèce de jeu de ping-pong, qui dure d'ailleurs toute la messe, entre les solistes, l'orchestre et le chœur, qui viennent annoncer cette espèce de joie festive que l'on retrouve en filigrane durant toute l'œuvre. Il est vrai qu'il y a des moments tout à fait particuliers que j'affectionne, moi, notamment quand il est fait part de l'incarnation. Donc, vous allez voir sur le terme « et il s'est fait homme », vous allez voir que le chœur va utiliser des valeurs beaucoup plus longues. Même d'ailleurs un petit peu avant, quand il est fait mention de la Vierge Marie, en fait, dès qu'il va y avoir une mention de l'humanité et de l'incarnation, donc de la naissance de Jésus, en fait, le temps va devenir beaucoup plus long. Il va se dilater. Au lieu de passer à 3 noirs par mesure, on va passer à 3 blanches. Donc, en fait, on va multiplier le temps par 2 pour essayer de montrer à quel point il y a quelque chose de pénétrant dans cette incarnation-là. Et d'ailleurs, l'artifice demandé par le compositeur à ce moment-là, et c'est exactement le même que celui de la messe, parce que quand on va entendre l'incarnation qui s'est faite, il écrit sur la partition « Faites ici un grand silence ». Et en fait, c'est ce silence de l'incarnation, ce silence qui est à la fois une bonne nouvelle, puisque c'est celle de la venue du Sauveur, et en même temps celle du deuil prochain de celui qui devra mourir. N'oubliez pas que le bois du berceau, le bois de la mangeoire, c'est aussi le bois de la croix. Et il y a dans cette dynamique, dans cette symbolique, quelque chose d'extraordinairement précurseur finalement dans cette musique-là. Vous allez entendre en plus magnifiquement ici exécuté. Voici donc le credo de la messe en minuit de Marc-Antoine Charpentier.
Thank you. Thank you.
c'est ainsi que se termine cet extraordinaire credo de la messe de minuit de Charpentier. Là aussi un véritable tour de force, c'est le morceau le plus long et en même temps le plus écrit, le plus abouti, le plus changeant. Effectivement, un véritable pour moi tour de force et notamment à chanter. C'est pour ça que je vous invite à encourager les chanteurs et les musiciens de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin qui l'interpréteront dans leur traditionnel concert de Noël placé sous ma direction. On fera ça le 14 décembre à 20h30 à la Basilique Saint-Sernin. Prenez vos places sur le site internet de la Schola Cantorum ou sur place, mais je ne vous cache pas que les places risquent d'être prises un petit peu d'assaut, donc n'hésitez pas à les prendre avant les autres. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. On va faire la suite et la fin de cette œuvre, et comme les morceaux les plus longs sont passés, on pourra aller un petit peu plus loin dans l'intimité de cette œuvre extraordinaire. D'ici là, portez-vous bien, joyeux avant à tous et à très bientôt.